I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue sur Salut ça va, by Take Care, le podcast qui booste tes ambitions. Toutes les deux semaines, on se retrouve pour explorer les clés de l'équilibre entre vie pro et vie perso, te donnant tout ce qu'il faut pour naviguer dans l'univers entrepreneurial avec confiance et sérénité. Envie d'aller plus loin? Rejoins-nous sur takecare.co pour découvrir nos coachings personnalisés. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va. On est toujours dans des contextes pas possibles. Au moment où j'enregistre cet épisode, il vous faut les inside là, il vous faut les backstage. Je suis dans mon lit, il est genre presque minuit. On est samedi soir et je suis en pleine retraite Take Care. Pour celles qui ont suivi, on a organisé notre première retraite business et entrepreneuse pour allier l'aspect de l'équilibre, du bien-être et de tout ce qu'on défend ici sur ce podcast et sur Take Care en général. La mission qu'on s'est donnée de vouloir parler d'entrepreneuriat autrement et de créer une réelle communauté de femmes ambitieuses qui a à cœur de réussir sans sacrifier son équilibre et sa santé mentale. Et on a créé donc un événement physique, le premier, pour justement pouvoir proposer des ateliers business et aussi, bien sûr, du yoga et plein d'autres pratiques très très cool qui ont été menées, accompagnées, dirigées par Paola, avec qui je travaille depuis un petit moment, qui est prof de yoga. Et donc, on est en plein dedans. C'est la première édition, ça a commencé jeudi, là on est samedi soir, demain c'est la dernière journée et donc les au revoir. Et ça a été tellement riche et j'aurai l'occasion de vous faire, je pense, un épisode retour sur l'organisation, comment on pense un événement comme ça, quelles sont les erreurs que j'ai pu faire, les enseignements, vraiment ce que j'en retire, les backstage, mais j'ai besoin de digérer un peu ce qui vient de se passer parce que c'est hyper intense et c'est pas fini. Par contre, je peux déjà, au bout de 3 jours, repérer des sujets qui sont hyper inspirants à aborder sur Take Care et autour de l'entrepreneuriat et des problématiques que les filles ont pu rencontrer dans leur vie et même actuellement dans leur business, même si elles ont des âges très différents, même si elles viennent pas forcément du même secteur. Il y a des problématiques similaires et c'est ça qui est ouf dans les moments comme ça et ce pourquoi Take Care fait tellement sens pour moi, c'est qu'on a besoin de connecter en fait entre femmes, on a besoin de connecter entre femmes qui entreprennent et en fait entreprendre c'est forcément, peu importe dans quoi vous entreprenez, peu importe la taille de votre équipe, peu importe depuis combien de temps est-ce que vous avez décidé de monter votre projet, c'est déjà une situation et une position, un positionnement, une posture qui vous amène face à vous-même, face à certaines problématiques qui sont parfois difficiles à gérer tout seul. Et on a besoin de connecter, on a besoin de cette sororité, on a besoin de ce partage et d'être comprise en fait. On a besoin d'écoute, on a besoin de pouvoir connecter avec des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont compris ou ont traversé ce que vous êtes en train de traverser. Et en fait, ces moments d'échange, ils sont hyper précieux. Et là, de le vivre en live, c'est extrêmement puissant. Donc, je peux vous annoncer déjà que ce ne sera pas la dernière, c'est évident, on va de plus en plus développer ces moments-là parce qu'ils sont nécessaires en fait, et j'aurais tellement aimé avoir ça il y a quelques années, et je sais que maintenant c'est un besoin, et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de pouvoir transmettre tout ça et de créer la possibilité de vivre ces moments, parce qu'il en ressort aussi pas mal de problématiques et pas mal de points qui sont hyper intéressants pour moi d'aborder, et c'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. C'est un sujet qui est énormément revenu pendant la retraite, dans les différents échanges, pendant les ateliers, pendant nos discussions, qu'elles soient en groupe ou individuellement, c'est le fait de devoir déléguer certaines tâches. Comment on délègue? À quel moment on délègue? À qui on délègue? Comment on s'organise pour déléguer? Comment on fait pour que ce soit efficacement délégué? Comment on fait pour choisir les bonnes personnes? Par quoi on commence en fait? Parce que déléguer, c'est parfois extrêmement difficile et ça paraît même plus difficile que de gérer soi-même. Sauf que c'est un peu le piège quand on entreprend et qu'on a plutôt une exigence assez élevée, qu'on est très efficace dans ce qu'on fait, qu'on commence à bien maîtriser son business, c'est le gros problème. Je pense que on peut toutes se le dire et se l'avouer, on a la difficulté difficulté de ne pas trouver exactement une personne qui correspond à notre fonctionnement, à la façon dont on a décidé de concevoir notre activité, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec une charge qui est parfois assez lourde à porter, hein, une charge mentale, une fatigue, un épuisement, et on manque de temps pour consacrer notre énergie aux tâches qui sont valorisantes pour nous, qui nous font du bien, pour lesquelles on a une plus-value, qui nous font kiffer et qui sont la naissance et le pourquoi de notre projet à la base. Et c'est parfois intéressant justement de se questionner sur le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ces tâches-là, comment elles constituent une part fonctionnelle ou indispensable parfois de nos activités, ou au contraire, est-ce qu'elles constituent des tâches parfois hyper chronophages où on a l'impression de perdre du temps, est-ce qu'on a l'impression que finalement on se retrouve toujours à devoir gérer énormément de problèmes, à être dans le multitasking, à perdre en efficacité, en productivité, etc. et à gagner par contre en surcharge quoi, et on a l'impression parfois de déborder et de ne pas savoir comment réguler tout ça. La première chose que je peux vous conseiller de faire, et vraiment j'ai été dans ce cas-là de surmenage complet, où j'avais l'impression de passer ma vie à gérer des problèmes, j'avais l'impression que je ne servais à rien d'autre que de faire de l'opérationnel, des micro-tâches, j'avais plus de temps pour créer, j'avais plus de temps pour développer, j'avais plus de temps pour même pour ma famille, enfin ça empiétait complètement sur les autres domaines de ma vie et sur le kiff en fait que je pouvais avoir en bossant. Et en discutant avec les filles, ce qui revient beaucoup, c'est justement cette impression d'avoir une montagne devant nous et de ne pas savoir par où commencer, quel chemin emprunter. Il y a un exercice que j'aime beaucoup proposer et qui souvent vraiment a des effets très très positifs sur la clarté par rapport à une situation comme celle-ci, c'est le fait de se poser face à l'immensité de ce qui compose notre entreprise. Parfois et très souvent, vous faites tellement de choses dans vos journées, dans vos semaines, il y a tellement d'automatismes que vous vous rendez pas compte de toutes les micro-tâches que vous prenez sur vos épaules et pour lesquels vous avez la responsabilité. Donc faites l'exercice. Alors parfois, je le conseille vraiment en version papier-crayon parce que c'est matériel et parfois le cerveau a besoin aussi de matérialiser exactement l'espace que ça prend dans tous les sens du terme pour comprendre à quel point on peut parfois être un petit peu dur avec nous-mêmes et surtout, on peut se charger beaucoup plus qu'on ne le pense. Faites cet exercice de prendre des post-it, des petits bouts de papier et de noter sur chaque bout de papier, sur chaque post-it, une seule tâche qui compose donc toutes les tâches de votre entreprise. Donc vous devez avoir une seule tâche par post-it et les post-it doivent constituer l'ensemble de toutes les tâches qui participent au fonctionnement de votre entreprise. Quand je vous dis toutes les tâches, c'est toutes les tâches. Ça va être qui est en charge d'acheter l'encre qui va servir à l'imprimante de la salle commune, de l'open space, peu importe. La personne qui est chargée de s'occuper du ménage. Qui est chargée du rouleau de PQ et de s'assurer qu'il y a toujours du papier toilette dans les toilettes. Les fournitures. Vraiment tout ce qui compose votre entreprise. Pas seulement ce qui est évident, la com, le marketing, la compta, etc. Mais toutes les tâches. Qui c'est qui récupère vos tickets de caisse? Qui c'est qui les transmet au comptable? Est-ce qu'il y a une présaisie avant? Etc. etc. Prenez le temps de détailler absolument toutes les tâches qui incombent au fonctionnement de votre entreprise et à toutes les personnes qui sont impliquées dans votre entreprise pour que ça fonctionne. Prestataires, salariés, prestataires internes, externes, peu importe. Vraiment, prenez le temps de détailler et donc une tâche par post-it. Je sais que ça peut être impressionnant, ça peut vous prendre du temps, c'est un exercice qui peut être un peu fastidieux, mais il est nécessaire et il est tellement, tellement aidant pour les étapes qui vont être ensuite mises en place dans l'espoir de pouvoir déléguer justement ces tâches. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez vous rendre compte non seulement du nombre de tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, du nombre de micro-tâches sous votre responsabilité et du nombre de tâches qui vous concernent, mais pour autant qui ne répondent absolument pas à votre zone de génie ou à ce qui fait sens pour vous ou à votre côté créatif si vous êtes un créatif de base ou à votre sens de l'organisation si c'est votre plus-value de départ, etc., etc. Et on se rend compte très vite que plus les années avancent avec notre business qui est notre bébé et qui grandit en même temps que nous, plus on se rend compte qu'on se charge de micro-tâches qui viennent encombrer les rouages de votre fonctionnement et surtout de vos compétences, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace disponible pour faire ce pour quoi vous êtes doué, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer dans votre boîte. Alors je vous dis pas que vous pouvez absolument faire uniquement ce que vous aimez. Moi je connais aucun entrepreneur qui fait uniquement ce qu'il aime dans son taf et uniquement les tâches qui le font vibrer. Il y a des trucs chiants et ça fait partie du lot de l'entrepreneuriat et de cette posture aussi d'adaptation et de flexibilité parce qu'on ne sait pas ce qui arrive chaque jour à son lot d'incertitudes. Ça fait partie de nos vies et ça je pense que plus vous l'expérimentez, plus vous comprenez que vous ne pouvez pas tellement avoir de compte contrôle sur ça. Par contre, ce qui est envisageable et ce qui est possible, c'est de recentrer aussi son énergie, son emploi du temps, le temps qu'on accorde à certaines choses, pour pouvoir y placer des trucs qui nous font kiffer et pour pouvoir être tout à fait au clair sur qui est responsable de quoi. Quand vous allez vous retrouver face à cette montagne, ce mur de tâches, il peut être intéressant d'identifier dans un premier temps les tâches vraiment qui vous semblent essentielles, c'est-à-dire celles qu'il est impensable pour vous de déléguer, celles pour lesquelles vous êtes complètement fermé à l'idée que ça puisse être géré par une autre personne que vous. Soit parce que vous estimez que vous ne voulez pas ou que vous n'êtes pas en capacité d'avoir confiance en quelqu'un d'autre sur la gestion de ces tâches, soit parce que c'est vraiment des tâches qui vous font kiffer et vous avez envie d'être impliqué à l'intérieur. Essayez d'être vraiment objective avec vous-même et de ne pas vous surcharger, de vraiment vous poser la question à chaque fois que vous détachez un post-it et que vous le mettez sur votre colonne genre perso, quoi, votre to-do, ok, pourquoi est-ce que cette tâche m'incombe? Pourquoi est-ce que je décide de prendre la responsabilité de cette tâche? Pourquoi ça fait sens que ce soit moi qui m'en occupe dans mon entreprise? Même si vous êtes solo, vraiment faites cet exercice. Et ensuite, estimez le nombre de tâches qui pourraient être déléguées et quels sont vos besoins. C'est-à-dire, quelles sont les compétences dont vous avez besoin, c'est-à-dire les compétences techniques, mais aussi quelles sont les compétences humaines. Parce que parfois, on se concentre uniquement sur cet aspect technique, cet aspect de compétences, dans le sens vraiment parfois scolaire du terme, mais on a vraiment, vraiment, vraiment besoin, quand on construit une équipe, que ce soit une équipe interne ou même avec ses prestataires, d'avoir des valeurs et une vision similaire. Aucun prestataire, aucun salarié ne pourra être aussi impliqué que vous dans votre entreprise, ça c'est une certitude et c'est normal. Vous, vous bossez pour vous-même, donc forcément, vous avez un regard qui est différent, vous avez une implication qui est différente, et vous ne pouvez pas exiger que des personnes extérieures, que des personnes dont vous êtes finalement le client, dans le cadre d'une affaire de prestation, ou pour qui vous êtes les patrons, soient absolument autant impliqués que vous dans une boîte qui n'est pas la leur. Bon, c'est un fait, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'être très clair sur vos besoins, autant techniques qu'humains, et de trouver des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette aventure pour arriver à prendre suffisamment en charge les tâches qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas importantes pour vous, mais qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. On est bien d'accord, on ne peut pas faire que ce qu'on aime, encore une fois. Par contre, il est tout à fait possible de trouver des personnes pour qui c'est la zone de génie. Je veux dire, il y a des personnes qui, à un moment donné, ont décidé de devenir comptable. Hein. Bon, ça, c'est encore un mystère pour moi, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un kiff dans le fait de structurer, je ne sais pas, peut-être un côté un petit peu satisfaisant du nombre rond, du calcul. Bon. Peu importe les motivations, elles sont respectables. Donc il y a des personnes qui peuvent correspondre à ces besoins-là, même si pour vous, c'est des tâches qui vous semblent juste genre hyper chiantes, hyper chronophages, et que vous repoussez, pour lesquelles vous procrastinez en permanence, etc. etc. Et j'aurai l'occasion de faire un sujet sur la procrastination parce que c'est aussi beaucoup revenu. Mais en réalité, la procrastination, quand on observe et quand on s'observe dans nos fonctionnements, on se rend compte que souvent, soit on procrastine par anxiété, parce que c'est des tâches qui nous font peur et qu'on a l'impression qu'en les repoussant, bah, finalement, ça va mieux se passer. Or, plus on les repousse, plus l'anxiété monte. Hein, ça, voilà, c'est comme tout ce qui concerne les peurs, très souvent, plus on veut le mettre sous le tapis, plus ça prend de la place. Bon, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la procrastination pour des tâches qui simplement n'engagent aucune gratification et qui font que c'est hyper dur de s'y mettre, c'est hyper dur d'y accorder du temps et c'est hyper dur de trouver la motivation et la discipline de s'en occuper, quoi. Je veux dire, et c'est normal. Dans nos journées, on a plus tendance à se tourner vers les tâches qui nous font kiffer, celles pour lesquelles on a l'impression d'apporter une plus-value et d'être suffisamment challengé par la tâche et en même temps, de se rendre compte qu'on a suffisamment les compétences pour être dans un état de flow, c'est-à-dire un état où on est juste stimulé comme il faut par la tâche, mais en même temps, on sait que on est en capacité de la commencer et de la terminer. Or, il y a beaucoup de tâches pour lesquelles on est en capacité de la commencer et de la terminer, mais ça ne stimule absolument pas le niveau de challenge. Donc, dans ces cas-là, clairement, on se fait chier et on la repousse. C'est un autre sujet, la procrastination, on aura l'occasion d'en reparler. Mais dans votre justement travail d'introspection par rapport à vos fonctionnements, par rapport au fonctionnement de votre...
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
entreprise. Ça peut être intéressant parfois justement d'identifier ces tâches répétitives qui sont repoussées en permanence et pour lesquelles bah, vous attendez le dernier moment, parce que c'est aussi des indicateurs, et des alertes qui vont vous permettre à un moment donné de vous dire en fait j'ai besoin que d'autres personnes les prennent en charge. Quand on arrive à un peu plus de clarté, qu'on a déjà une idée de ce qu'on veut déléguer, des compétences qui sont nécessaires et de tout ce travail de valeur, de vision, de mission, c'est-à-dire qu'on arrive avec bien sûr la connaissance des tâches qu'on a envie de confier, mais on a aussi travaillé sur qu'est-ce qui fait sens pour nous au niveau humain, quelles sont les compétences humaines qu'on valorise et dont on a besoin dans l'entreprise. C'est pas forcément des gens qui vous ressemblent, et ça c'est hyper important d'être honnête par rapport à ça. On n'a pas forcément besoin de ce dont on a envie. Je répète la phrase, on n'a pas forcément besoin de ce dont on a envie. Voilà, parce que très souvent, j'entends des histoires où y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir s'entourer uniquement de gens qui fonctionnent comme eux, et on se rend compte que les personnes qui fonctionnent comme elles, c'est souvent des personnes qui n'ont pas envie de prendre en charge les tâches que vous-même vous avez repoussées, ce qui fait sens. Donc ça peut être parfois intéressant d'explorer non pas des valeurs opposées, parce que ça je pense que sur le fond à un moment donné ça craque, par contre on peut avoir des valeurs similaires mais des fonctionnements différents. Moi c'est tout à fait le cas dans mon entreprise, on a des valeurs hyper similaires par exemple avec Mathilde qui est mon amie d'enfance avec laquelle je travaille depuis maintenant quelques années, qui est salariée dans ma boîte, donc on a des valeurs vraiment communes et c'est pas pour rien qu'on est amis depuis tant de temps. Par contre on a des fonctionnements qui sont parfois différents sur certaines choses. Elle a une forme de rigueur, une forme d'application, une forme d'exécution qui est parfaite, là où moi je vais être plus dans ce truc d'exploration, de créativité, etc. Et donc à un moment donné, nos fonctionnements sont complémentaires et nos valeurs sont similaires. Donc on se retrouve dans la mission et dans pourquoi on fait les choses, pourquoi ça fait sens pour nous de bosser sur ces projets. Mais nos fonctionnements, dans les moments un peu critiques, sont hyper complémentaires parce que bien sûr on a des valeurs communes, mais en attendant, on a des fonctionnements qui s'accordent et qui nous permettent de prendre le relais l'une et l'autre sans être épuisé au même moment pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes ressources et donc c'est hyper précieux dans les moments où il y en a une qui est un peu plus down parce que l'autre peut prendre le relais. Et c'est ce qui se passe souvent dans des associations. Hein. Dans les associations qui fonctionnent, parfois vous avez des personnes complètement différentes sur leur fonctionnement, qui sont en accord sur les valeurs et sur la mission globale du projet, sur la vision long terme. Mais par contre, sur le fonctionnement, ils sont complètement complémentaires. C'est yin et yang, quoi. Et en fait, c'est OK. Donc quand vous voulez, à un moment donné, déléguer, vous pouvez aussi vous poser la question, et en fait, pour moi, c'est vraiment un passage qui est limite obligatoire, c'est vraiment ce questionnement autour des valeurs et de ce qui fait sens pour vous humainement parlant. Quels sont vos non négociables au niveau des valeurs de votre boîte, du projet que vous portez, etc. Quels sont vos non négociables? Et à partir de là, vous pouvez peut-être établir une fiche de poste au niveau compétences, si vous cherchez à embaucher en interne, ou une fiche de poste pour vous si vous avez besoin de cadrer, par exemple, votre recherche de freelance. Et on arrive à cette troisième partie, à qui on s'adresse quand on a envie de déléguer. Pour moi, il y a plusieurs niveaux, et quand on a fait tout ce travail justement d'identification des tâches, puis d'établir justement cette carte d'identité, ce squelette de valeurs, de mission, de vision, et de où est-ce qu'on va, comment on va, et pourquoi on fait tout ça, quoi, hein, c'est un peu grossièrement expliqué, mais on le travaille beaucoup hein, dans les coachings, que ce soit les coachings individuels ou que ce soit les coachings de groupe, c'est indispensable en fait d'avoir ce travail-là dans plein d'aspects et de pans de votre boîte, et notamment quand vous traitez avec de l'humain en fait, parce que comme je le répète, mais très souvent, et je n'ai pas arrêté de le dire aux filles, et je pense que ça a fait sens pour elles, et c'est vrai que quand on le dit, ça paraît si facile, mais c'est difficile de se l'intégrer, c'est que personne ne peut lire dans nos pensées. Personne, à un moment donné, n'est en capacité de comprendre exactement ce que vous avez dans votre tête. Vous, ça vous paraît hyper clair, genre c'est évident, et c'est même du bon sens, mais en fait, la personne en face, elle a sa propre culture, sa propre vision des choses, ses propres biais, son propre parcours, ses propres ressources, etc. etc. Et donc, l'interprétation qu'elle va faire de la situation ne sera pas du tout la même lecture que la vôtre. Et c'est normal. Je veux dire, on met 10 humains face à une situation. S'ils devaient la retranscrire, il y aurait certainement 10 versions différentes à quelques nuances près. Mais ces nuances sont parfois très importantes. Et on sait à quel point le détail dans la prise en charge, justement, de tâches, de missions, de projets, peut être juste essentiel. Donc, n'attendez pas qu'on devine, soyez le plus précis possible et soyez le plus démonstratif, descriptif possible et inimaginable. Allez encore plus loin que ce qui vous paraît correct dans justement ce travail d'identité, de squelette, d'ADN de votre projet. Et c'est à partir de ça, à partir de cette base-là, que vous allez pouvoir à un moment donné déléguer en ayant la certitude d'être sur la même fréquence et la même vibration que la personne que vous avez en face de vous, que ce soit encore une fois en interne ou dans la recherche de prestataire. faire. Quand vous arrivez à ce stade, que vous avez justement listé vos tâches et vos besoins, vous savez exactement en termes de compétences techniques et de compétences humaines où est-ce que vous en êtes, on commence à se dire, ok, quel type de personne j'ai besoin réellement autour de moi? Est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un en interne? Est-ce que ça va être de la mission et du coup un freelance peut plus s'adapter à mes besoins et à être flexible par rapport à mes besoins? Ou est-ce que vous allez avoir besoin aussi de petites personnes de façon très ponctuelle? Pour moi, il y a trois catégories. Et je vais vous parler de trois catégories parce que j'utilise les trois catégories pour moi de délégation. Je ne sais pas si ça se dit, mais écoutez, je pense qu'à ce stade du podcast, vous comprenez. Quand je veux dire délégation, je parle des différents statuts. Donc, le premier statut, c'est celui du salariat. Moi, j'ai donc Mathilde qui est salariée dans mon entreprise. J'ai déjà eu beaucoup plus qu'une personne. Et j'en suis revenue. Aujourd'hui, on a un fonctionnement différent. J'en suis revenue parce que je considère que je ne suis pas une bonne manager. Et en fait, au-delà d'être bonne ou mauvaise, en fait, je n'aime pas ça. J'aime pas manager, c'est pas mon truc. Et à un moment donné, la question s'est posée de savoir si, oui ou non, il allait falloir que je prenne quelqu'un en tant que bras droit pour s'occuper du management, des équipes, etc. J'ai fait le choix que non. Et en fait, l'histoire s'est très bien faite parce qu'il y a énormément de filles avec qui j'ai bossé pendant des années qui étaient à un moment de leur vie où elles avaient envie d'autre chose, de rejoindre leur compagnon, d'aller bosser à l'étranger, de monter leur boîte, etc. Et donc ça s'est fait très tranquillement. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bah, rien n'arrive par hasard. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. Bien sûr, avec une certaine mesure, hein, je suis pas en train de me dire, ah là, c'est le destin pour chaque chose qui arrive. Mais en tout cas, là, ça tombait bien et j'ai pris ça comme une opportunité. Une opportunité de me dire, ok, comment j'ai envie de structurer la boîte dans les prochaines années, quelle est justement ma vision par rapport à ça, et cette vision, elle évolue. Elle a évolué aussi avec ma notion de réussite, c'est-à-dire qu'une boîte n'est pas forcément une réussite quand elle a je ne sais pas combien de personnes en interne, je ne sais pas combien de salariés, et c'est ok en fait de fonctionner différemment, et notre activité est nouvelle, on a des problématiques qui sont nouvelles, on n'est pas une boîte de bureau, on est obligé de bosser absolument ensemble, en présentiel, etc. Donc bah testons autre chose. Et donc j'ai toujours Mathilde qui est en interne, qui est salariée, qui est un élément essentiel de la boîte, et vraiment aujourd'hui on a besoin de ce fonctionnement salarial, déjà pour elle parce que c'est un choix, mais pas que, aussi pour moi parce que c'est un pilier en fait, c'est un pilier. Mathilde a repris énormément de gestion et de développement, et non seulement on a du coup cette vision très commune, des valeurs vraiment communes, mais en plus de ça on a un fonctionnement qu'on comprend mutuellement, et donc on est arrivé à un stade où en fait il y a très très peu de validation de ma part, etc. Elle est autonome dans énormément de tâches, et donc c'est vraiment une plus-value énorme parce que je sais que ça continue de tourner même quand je ne suis pas là. Évidemment, ça, c'est pas seulement lié au salariat, hein. C'est aussi lié à la nature de la personne qui est en interne, mais donc c'est une personne qui est forcément dédiée plus qu'une personne en freelance, généralement, puisque une personne en freelance doit avoir d'autres clients que vous, hein, ça c'est la loi, donc évidemment elle peut pas être autant impliquée qu'une personne qui est dédiée à votre activité. Donc moi j'apprécie justement cette relation de salarié, bon, qui est particulière bien sûr parce qu'on est amis, mais c'est pas du tout la relation hiérarchique que j'apprécie, je pense que vous avez bien compris que c'est pas comme ça que je fonctionnais, mais c'est justement cette capacité à pouvoir me rassurer sur le fait qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui puisse gérer à un moment donné sans que je sois forcément là et sans que j'ai besoin de m'adapter au planning des uns des autres, etc. Il y a quelque chose de routinier quelque part, de quotidien et de stable. Donc cette stabilité-là qu'apporte une personne en interne, elle est précieuse dans beaucoup de pans de nos activités. Le deuxième niveau de délégation, encore une fois, c'est le freelance, donc les freelances réguliers avec qui on bosse. Donc qui ont d'autres clients, mais qui ont un nombre de clients définis et pour lesquels ils font des missions récurrentes. Donc c'est le cas pour nous, pour pas mal de pôles. Le pôle SAV, le pôle communication, le pôle logistique, le pôle expédition, etc., etc. Et on a d'ailleurs beaucoup plus de personnes en externe qu'on en avait en interne, en salariat, parce que c'est vrai que ça apporte une certaine flexibilité en fonction aussi des besoins de l'entreprise. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, en termes financiers, c'est vraiment un avantage selon moi, parce qu'on peut complètement, mais adapter nos volumes de dépenses en fonction des besoins de l'entreprise et de sa capacité. Donc pour cette partie-là, c'est vrai qu'on a l'habitude de déléguer des tâches qui sont justement un peu chronophages, pour lesquelles je sais que je n'ai pas forcément une plus-value, que généralement je sais gérer, mais qu'on n'a aucun intérêt à gérer en interne, et pour lesquelles on trouve aussi une certaine forme de liberté à pouvoir gérer de n'importe où. Je veux dire, demain, je pourrais bosser de n'importe où. Aujourd'hui, je sais que mon business, il tourne, parce que
les personnes qui bossent en interne, je sais que j'ai complètement confiance en elles et qu'on n'a pas besoin d'être forcément à côté pour que ça roule. Et les freelances qu'on a recrutées, ben vraiment, on est dans une totale confiance et on a un fonctionnement hyper clair sur nos attentes, on fait des points réguliers, etc. Et on s'assure toujours d'être sur la même vibration, la même fréquence pour pouvoir continuer à avancer et à faire évoluer justement ses missions. Et enfin, le dernier petit truc qui me semblait important d'aborder, c'est quand je délègue des petites tâches, quand on délègue des petites tâches qui sont hyper ponctuelles, hyper courtes et qui viennent vraiment, vraiment, vraiment changer notre vie. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que ce sont des tâches qui prennent parfois quelques minutes, quelques heures, quelques dizaines de minutes, mais qui répétées et condensées sur une journée peuvent parfois prendre énormément de temps. Je vous dis n'importe quoi, je sais que ce podcast par exemple, je ne vais pas du tout pouvoir le monter, donc je vais trouver quelqu'un en urgence pour pouvoir me le monter pour je ne sais pas combien d'euros, mais moins d'une centaine d'euros. Et ce temps et cet argent, en fait, il est investi pour que je puisse me reposer, passer du temps en famille, etc. etc. Et là, on est samedi soir, donc le contexte est différent, mais même dans ma semaine, quand je vais avoir un bug sur mon site internet, il est hors de question que je perde 2 heures à essayer de comprendre pourquoi, du comment, bref, je sais que je vais faire appel à une personne qui a les compétences et qui va pouvoir le régler en 10 minutes. Et ce temps-là, enfin l'argent qui est investi sur ce temps-là, il est tellement récupéré en tranquillité, en efficacité et en kiff en fait. Et ça rejoint l'épisode que j'avais fait travailler moins pour gagner plus. C'est vraiment ce qui a changé ma façon de faire et c'est ce qui a permis à mon entreprise d'être vraiment dans une énergie de croissance. C'est qu'à un moment donné, je me dis qu'une tâche sur laquelle je passe plus de 15 minutes sans avancer, c'est vraiment pour laquelle je suis bloquée, je la délègue et je cherche une autre solution. Et c'est un automatisme à prendre. Donc moi, je passe par certaines plateformes comme ComeUp, qui est une plateforme francophone justement pour pouvoir déléguer ce type de tâches et ce type de problématiques. Il y a Fiverr aussi, qui est pas mal, qui est intéressante. Malt aussi, que je vous conseille. Et vraiment, allez explorer ces plateformes-là parce que c'est des plateformes qui vous permettent d'être mises en relation avec des professionnels hyper, hyper rapidement et d'avoir un retour sur le temps gagné qui est ouf. Moi, j'ai vraiment des personnes avec qui je travaille très régulièrement sur des micro-tâches comme ça, des bugs de site, des montages, du sous-titrage, etc., etc. Et ça va me faire gagner un temps fou sur les micro-tâches justement de ma journée quand j'ai pris le temps de bien, bien clarifier mes besoins, etc. C'est très facile de me dire là, j'ai aucune plus-value à le faire et au contraire, ça va empiéter sur du temps qui est important pour moi, pour mon équilibre, pour ma vie personnelle, etc., etc. Donc, je délègue. Et plus vous allez le pratiquer, plus ce sera facile. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu un réflexe, mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas, donc ça se travaille vraiment. Mais voilà, c'était intéressant pour moi de vous partager mon process par rapport justement à tout ce truc de déléguer. Peut-être qu'on fera un épisode sur la confiance, sur l'organisation, sur justement la mise en place d'outils qui permettent de faciliter ces process, mais je pense que c'est déjà peut-être quelques clés qui peuvent être intéressantes d'explorer. En tout cas, on l'a pas mal abordé pendant ce week-end de retraite, et j'avais envie de vous faire partager aussi un petit bout de nos discussions et de nos échanges. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.
Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur takecare.co. Prenez soin de vous. À très vite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.